bonsoir et bienvenue pour ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 26 février. Covid-19, la campagne de vaccination a débuté en Corée du Sud. Washington accepte le transfert en Suisse d'une partie des fonds iraniens bloqués à Séoul. En déplacement à Busan, le président Moon prône le rééquilibrage régional. Et enfin, les Blackpink désignées ambassadrices de la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. C'est le jour J. La Corée du Sud vient de lancer sa campagne de vaccination contre le Covid-19, un an et 37 jours tout juste après le premier cas confirmé du virus dans le pays. Selon l'administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies, les premières inoculations du vaccin AstraZeneca ont commencé ce matin dès 9h, simultanément dans 1915 centres de santé publique ou médicalisés de long séjour à travers tout le territoire. Quelques 310 000 employés et résidents de ces établissements, tous âgés de moins de 65 ans, sont éligibles pour cette première étape. Jusqu'à hier, 93,7% d'entre eux ont accepté de se prêter au jeu. Les premiers lots du vaccin ont été fabriqués par le sous-traitant sud-coréen du groupe anglo-suédois SK Bioscience dans son usine à Andong, à environ 200 km au sud-est de Séoul. Il s'agit de quelque 1 500 000 doses, soit une quantité suffisante pour vacciner 750 000 personnes, 2 doses étant requises pour chaque individu. Qui est la première personne à avoir été vaccinée au pays de Matin Clair? Eh bien, il s'agit d'une employée d'un EHPAD situé au nord de Séoul. Même si les autorités ont décidé de ne pas désigner quelqu'un de particulier, préférant mettre l'accent sur la simultanéité, c'est bien cette infirmière de 61 ans qui a ouvert le bal puisqu'elle a reçu le vaccin un quart d'heure avant le début officiel du programme. En ce premier jour, près de 5260 individus sont concernés. Et alors que la campagne de vaccination a débuté ce matin avec le produit d'AstraZeneca, l'avion qui transporte la première livraison du vaccin Pfizer a atterri vers midi à l'aéroport international d'Incheon. Il s'agit d'un volume de 117 000 doses, soit une quantité suffisante pour inoculer 58 500 personnes. Le pays a pu s'en procurer auprès du laboratoire américain dans le cadre de l'initiative multilatérale COVAX Facility. L'injection est programmée dès demain. Elle débutera dans le centre de vaccination national installé dans l'enceinte du Centre médical national. En bénéficieront 300 professionnels de santé en première ligne dans la lutte contre le coronavirus dans la métropole de Séoul. Et à partir du 3 mars prochain, elle s'étendra aux 4 centres de vaccination régionaux. Comme le produit de Pfizer nécessite un stockage à très basse température, à savoir moins 70 degrés, son inoculation est d'abord confiée au centre en mesure d'assurer une telle gestion. Ensuite, il sera livré progressivement à partir du 8 mars à 82 autres établissements. La vaccination devrait s'achever d'ici le 20 mars prochain pour quelque 55 000 membres des équipes médicales chargées de traiter les patients infectés par le virus. Parmi les 5 vaccins anti-Covid attendus en Corée du Sud, c'est celui de Pfizer qui s'est avéré le plus performant en matière de prévention selon les résultats des essais cliniques. Et pour terminer ce chapitre, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures a franchi de nouveau le seuil des 400 en Corée du Sud, à savoir 406. C'est la province de Gyeonggi qui compte le plus grand nombre de nouvelles contaminations avec 135 patients, suivi de Séoul avec 129. Le dernier bilan porte le total cumulé des cas positifs au coronavirus à 88 922 et celui des décès à 1585, ce qui revient à un taux de mortalité de 1,78%. Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement prolongerait de 2 semaines le niveau actuel de distanciation sociale, le niveau 2 dans la région métropolitaine de Séoul et 1,5 dans les autres régions. Dans la foulée, il a prévu le maintien de l'interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes et des horaires d'ouverture réduits pour les commerces. Chang Se-kyun a expliqué que le pays n'avait certes pas connu la recrudescence tant redoutée après les congés de Seollal, le nouvel an lunaire, mais que la situation n'était pas encore stable en raison de nouveaux clusters sporadiques. Chang a ajouté que l'heure était désormais à la vaccination et de promettre que l'exécutif mobiliserait tous ses efforts afin que l'ensemble des citoyens puissent reprendre une vie normale. Les États-Unis auraient donné leur accord de principe pour le transfert en Suisse d'une partie des fonds iraniens gelés dans des banques sud-coréennes en raison de leurs sanctions contre l'Iran, soit quelque 7 milliards de dollars. C'est ce qu'a affirmé hier un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères devant les journalistes. Selon lui, il reste toujours à déterminer les modalités techniques de ce dégel partiel. Séoul a continué à discuter avec Washington de l'éventuel rapatriement d'une partie de cette somme sur un compte suisse afin que Téhéran puisse en servir dans le cadre de l'accord commercial humanitaire suisse. Selon ce dernier mécanisme, les entreprises de produits médicaux, pharmaceutiques ou alimentaires basées en Suisse peuvent livrer des biens humanitaires en Iran. Avec l'aval des autorités américaines et les banques helvétiques assurent et garantissent le règlement de leurs exportations. La Corée du Sud et l'Iran envisageraient de virer un septième du montant en question vers des comptes suisses. D'ailleurs, le gouverneur de la banque centrale iranienne a récemment déclaré que son pays récupérait d'abord 1 milliard de dollars bloqués à Séoul. Selon Abdel Nasser Emati, cette somme serait versée directement sur des comptes iraniens sans être convertie sous forme de produits commerciaux. Cependant, rien n'est sûr, tout dépendrait des négociations à venir. Séoul devrait concerter Washington et Berne afin de fixer le montant et le calendrier du transfert. Si la Corée du Sud parvient à réaliser un tel transfert, cela pourrait débloquer la situation liée à son pétrolier saisi début janvier par les gardiens de la révolution en Iran. Politique à présent, le président de la République s'est rendu hier à Pusan afin d'assister à la réunion où il s'est briefé sur la stratégie d'aménagement de la mégalopole du Sud-Est. C'est son premier déplacement dans cette deuxième ville du pays depuis février 2020. Pour Moon Jae-in, il s'agit de sa 11e visite de terrain dans le cadre de son vaste plan de relance économique baptisé New Deal à la coréenne et de sa 2e visite au titre de sa tournée pour veiller sur le volet du rééquilibrage régional de ce projet. Dans son discours, le locataire de la maison Bleu a appelé la ville de Pusan, celle d'Ulsan, et la province de Gyeongsang du Nord à fédérer leurs forces, soulignant que le défi de constituer une mégalopole qui compterait d'ici 2040 10 millions d'habitants et représentait 3,5 milliards d'euros n'est pas impossible. Il a affirmé sa volonté d'en faire un des deux grands axes de développement national en tant que contrepoids de Séoul. Dans la foulée, le président Moon a visité le terrain dédié à la construction d'un nouvel aéroport international sur l'île de Gadok. L'opposition ne voit pas d'un bon œil cette visite qu'elle juge électoraliste en amont des élections partielles d'avril prochain à la mairie de Pusan et à celle de Séoul. Direction Yoido. L'Assemblée nationale a voté cet après-midi en séance plénière le projet de loi spéciale pour la construction de l'aéroport sur l'île de Gadok avec 181 voix pour, 33 contre et 15 abstentions. L'adoption du texte permettra de simplifier le processus des études de faisabilité sur ce nouvel aéroport situé dans le sud-est du pays. Le projet de loi spéciale relative au soulèvement de Jeju du 3 avril 1948 était également à l'ordre du jour. Le gouvernement a estimé à 1300 milliards de won, soit 950 millions d'euros, le montant des indemnités qui seront versées aux victimes de la répression armée en vertu de cette loi. Et ce n'est pas tout, les projets de révision des lois sur la fiscalité et sur la maltraitance des enfants ont également été votés. Ils consistent respectivement à accorder des incitations fiscales aux propriétaires ayant baissé leur loyer en faveur des petits commerçants et à créer un crime d'homicide volontaire sur enfants suite à la maltraitance. Enfin, la résolution condamnant le coup d'État en Birmanie a elle aussi été votée.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Alors que de plus en plus de voix se lèvent aux États-Unis, en Corée du Sud et en Chine pour dénoncer la thèse du professeur américain Mark Ramseyer, qui a qualifié de prostituées volontaires les femmes de réconfort victimes de l'esclavage sexuel perpétré par l'armée nippone en temps de guerre, des chercheurs et des militants japonais ont rejoint ce mouvement de protestation. Fight for Justice, une organisation civique nippone gérant un site web de recherche sur les Uyghurs, a annoncé aujourd'hui la tenue d'un séminaire en ligne le 14 mars prochain. En coopération avec d'autres associations académiques sur les recherches historiques. Il s'agit là d'une première réunion organisée dans l'archipel. Dans ce colloque, plusieurs savants, dont Yoshiaki Yoshimi, professeur honoraire à l'université Chuo, est considéré comme l'un des pionniers chevronnés dans ses études de ce dossier controversé, prendront la parole pour pointer du doigt les manquements de la thèse en question. Et on enchaîne avec un tout autre sujet. L'Institut international pour les études stratégiques du Royaume-Uni, l'IISS, a estimé à au moins 8 le nombre de missiles balistiques intercontinentaux que détiendrait la Corée du Nord. C'est ce qu'on apprend d'un rapport récemment publié par cet institut et cité par Radio Free Asia. Le document a cependant précisé que l'état de développement du nouveau type d'ICBM nord-coréen Hwasong-16, dévoilé en octobre dernier par le pays communiste, était incertain. Et d'ajouter que ces engins pourraient transporter des ogives nucléaires, mais qu'il n'y avait pas de preuves décisives démontrant que Pyongyang les a produits avec succès. Et pour terminer, le groupe de K-pop Blackpink a été nommé ambassadeur de la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, prévue en novembre à Glasgow. D'après l'annonce faite par son agence YG Entertainment, la cérémonie de sa nomination a eu lieu hier à la résidence de l'ambassadeur britannique en Corée du Sud. À cette occasion, le Girls Band a reçu une lettre du Premier ministre britannique Boris Johnson, lui demandant de faire des efforts pour sensibiliser davantage le public aux problèmes liés au réchauffement climatique. Pour rappel, Blackpink avait produit conjointement avec l'ambassade du Royaume-Uni à Séoul un clip vidéo intitulé Climate Action in Your Area, consistant à présenter la conférence et rappeler la gravité du changement climatique. Ce clip a été présenté au sommet de l'ambition climatique 2020. C'est la fin de cette édition présentée aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et bon week-end à tous.